Terme de ce cycle de trois conférences qui nous aura conduit des origines de l'Église, en tout cas au moment où elle émerge dans l'Empire romain, et comme nous l'avons dit, cette Église a émergé du sang des martyrs. Et pour reprendre la belle expression de Tertullien, ce père de l'Église du IIe siècle, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Nous avons vu l'installation sur le sang des martyrs, le développement de l'Église à la période constantinienne. Et puis on a fait un saut dans le temps et on a parlé la dernière fois de la christianisation de la Gaule. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais peut-être que nous aurons, si Dieu le veut, l'occasion de revenir sur tel ou tel sujet, de développer tel ou tel aspect plus tard. Ce soir, le sujet est grave. Il est grave et je dois vous dire que ce soir, je suis, tout en gardant une profonde joie intérieure, je suis amer au regard des informations sur la chute d'Alep et surtout les mensonges qui y sont liés. J'y reviendrai. Vous savez, le patriarcat d'Antioche est un patriarcat extraordinaire. C'était la province romaine de Syrie. Et c'est dans ce qui va devenir le patriarcat d'entre eux, dans cette province de Syrie, que le Christ est né. Et le père Jean Corbon a publié un ouvrage extraordinaire qui a été réédité en 2007. Je n'ai plus la date exacte de la première édition, je crois que c'est 1986, mais je ne saurais vous l'affirmer. Et parlant de cette église d'Antioche, il dit « Sans lyrisme déplacé, on peut dire que l'église antiochienne de cette région a reçu par prévenance la grâce d'être le berceau du mystère du Christ. Mais il lui a été aussi confiée la mission d'être la kénose préférée de l'Esprit du Ressuscité jusqu'à en vivre les derniers abaissements au creux des enfers. » Voilà une phrase qu'il faut méditer parce qu'elle a toujours été d'actualité pour les chrétiens d'Orient sous des formes différentes. Aujourd'hui, avec une violence jamais atteinte. Alors, il y a 2 mois, ici, à ce même micro, je vous entretenais de la persécution des premiers chrétiens sous les empereurs Dèce et Dioclétien. Or, en ce début de 21e siècle, qui suit immédiatement le 20e, qui est celui des génocides, nous constatons que les martyrs du Christ n'ont jamais été aussi nombreux. Et gageons que l'histoire retiendra des 120 dernières années que ce siècle aura été celui des martyrs. En effet, il n'est de jour sans que les moyens d'information à notre disposition nous fassent parvenir de nouvelles alarmantes, dramatiques, menaçante en provenance du Proche et du Moyen-Orient. Sur cette terre qui a vu l'aurore du christianisme règne aujourd'hui une force brutale, un monstre qui se nomme djihadisme, incarné par l'État islamique en Irak et au Levant et selon l'acronyme arabe Daesh, ne reculant devant aucun crime, aucune violence. En un mot, un État totalitaire. Marqué par la volonté d'établir un contrôle sur la vie collective et la vie individuelle. Et j'ose reprendre une citation d'Anna Arendt, « Le totalitarisme, c'est la fusion d'une idéologie avec la terreur. » Et lorsqu'elle écrivait cette lettre, c'est ce texte, pour elle, elle plaçait sur un même plan le stalinisme et le nazisme. Elle aurait vécu à l'époque du djihadisme, elle l'aurait ajouté à cette liste. Il n'y a pas de meilleure définition lorsqu'on parle d'un État totalitaire et du djihadisme pour définir un mouvement transnational dans son organisation, universel dans sa portée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques. Dans ce contexte, sont visées aujourd'hui les minorités chrétiennes en Syrie, en Irak, en Turquie, dans les Émirats, en Libye, en Arabie Saoudite et au Qatar pour l'essentiel. Mais loin de céder à une logique victimaire, il faut aussi signaler en toute justice les Kurdes, les Yézidis et surtout la grande masse des musulmans, elle aussi est peut-être d'abord victime de Daesh. En face d'une telle situation, on s'attendait à une vive réaction d'opposition à ces génocides, à ces crimes ethniques et religieux. Mais au lieu de voir l'Europe, la France, se dresser contre cette tentative de réduire à néant l'histoire culturelle, religieuse du Levant et de la Mésopotamie, en détruisant de nombreuses églises, dont certaines datent de l'Antiquité tardive, de précieux manuscrits, superbes manuscrits de la région de Mossoul, dont une partie a pu être sauvée par les dominicains de Mossoul, des clochers rasés, des maisons marquées de la lettre N, signifiant nazaréen, détruites. Eh bien, ces vieux pays européens, et cela continue toujours, ont opposé leur inertie et leur indifférence. En un mot, l'Europe, dans cette affaire, est totalement absente, a perdu son âme. La communauté internationale, quant à elle, on voit cette incapacité dans laquelle elle se trouve en face d'Alep, en face d'un drame qu'elle a créé, mais j'y reviendrai. La communauté internationale a perdu le reste de crédibilité qui lui restait. Sorte d'éloge funèbre de l'ONU avec des listes de victimes civiles chaque jour plus longues. Jetons un regard sur le martyrologe des églises d'Orient depuis 2010 et cela nous aidera à mieux cerner la réalité actuellement vécue là-bas par les chrétiens. Rappelez-vous, le 31 octobre 2010, le carnage à la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, 53 victimes, 67 blessés. Le 1er janvier 2011, attentat à l'église des Saints d'Alexandrie, 21 morts, 79 blessés. Et que lisait-on sur des bannières le jour des obsèques où on enterrait ces victimes aux croix ? Nous nous sacrifions pour toi par notre âme et notre sang. Le 22 avril 2013, à Alep, deux métropolites sont enlevés, Gregorio Souana Ibrahim, syriaque orthodoxe, et le grec orthodoxe Boulos Yazidi, aujourd'hui personne en Syrie. Dans le corps des évêques et des patriarches, n'a de nouvelles. C'était le 22 avril 2013. Le 7 septembre 2013, à Maaloula, en Syrie, la ville de 150 000 habitants tombe aux mains des islamistes d'Al-Nostra. Et au mois de décembre, 5 religieuses seront enlevées, heureusement retrouvées saines et sauves quelques mois après. Le 10 juin 2014, l'État islamique en Irak et au Levant attaque 35 villages assyriens dans la plaine de Ninive et prend Mossoul. Ça, c'est le grand tremblement de terre qui va ébranler et déclencher le grand mouvement d'exode des chrétiens d'Orient, pas seulement des chrétiens d'Orient, mais des chrétiens d'Orient. Le 15 février 2015, je me rappelle, j'étais à Venise, 21 coptes sont égorgés sur la plage de Sirte, en Libye. Souvenez-vous, ces hommages horribles, ne les oublions pas. Et un mois après, à nouveau, 26 coptes sont égorgés ou fusillés sur une plage en Cyrénaïque ou dans le désert libyen. Et enfin, dimanche dernier, en l'église des Saint-Pierre et Paul du Caire, une explosion a tué 23 personnes et fait 49 blessés dans la communauté copte. Ce n'est pas par une espèce de complaisance morbide que je viens de décliner cette litanie funèbre. La répétition de ces violences et de ces crimes a rendu visible la riche et complexe diversité des églises orientales vis-à-vis d'un Occident qui, dans sa majeure partie, ne se sentait pas concerné par elle. Et je dois l'avouer, je suis toujours assez irrité lorsqu'au détour d'une conversation, un interlocuteur, sur un ton péremptoire, affirme qu'arabe équivaut à musulman. Eh bien non, non, non. Non seulement il existe des arabes chrétiens, mais loin d'être les descendants d'autochtones prétendument convertis à l'époque des croisades, ils sont les chrétiens des origines, les fondateurs de la primitive Église, fondateurs et témoins privilégiés des origines du christianisme, de cette Église qui a vu le jour à Jérusalem par un beau matin de Pentecôte. De Jérusalem, de la ville de Jérusalem, leur foi est parvenue à Antioche, capitale de la province romaine de Syrie. Et n'oubliez jamais que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Christ reçurent le nom de chrétiens. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26. Dépositaire du kérigme chrétien, à savoir que le Christ a souffert sa passion, est mort sur la croix, fut mis au tombeau et ressuscita le troisième jour au matin de Pâques, leur message se répandit d'abord dans l'Empire romain, Antioche, Alexandrie, l'Asie proconsulaire, l'Asie mineure, si vous voulez, la Turquie d'aujourd'hui, la Grèce, Rome, l'Afrique du Nord, la Gaule. Et hors des frontières de l'Empire romain, ce sont des églises de Mésopotamie en Chaldée, lieu de naissance de notre père Abraham, autour du siège de Séleucie Ctésiphon, et l'Arménie et la Géorgie. Ce bref rappel historique rend compte de la multiplicité des rites, des spiritualités, des églises orientales qui surprennent l'homme non averti. En revanche, il ne s'y trompe pas. Ces rites reposent sur une profonde unité, quoique celle-ci s'exprime à travers des langues et des genres littéraires différents. Cela s'explique très bien si l'on veut considérer qu'il existe originellement une unique source liturgique, la liturgie hiérosolomitaine, c'est-à-dire de Jérusalem, l'église mère de toutes les églises. Et lorsqu'on lit les catéchèses mystagogiques de saint Cyrille de Jérusalem ou le voyage au lieu saint d'Égérie, eh bien, on peut reconstituer la liturgie originelle de Jérusalem telle qu'elle se déroulait dans la grande basilique construite par Constantin sur le lieu de la mort, le Golgotha, et surtout le lieu d'ensevelissement que nous, latins, appelons le Saint-Sépulcre et que les orientaux appellent Anastasis, ce qui en grec signifie « résurrection ». En ce sens, on peut dire que tous les rites sont nés à Jérusalem. Et, comme je l'ai déjà signalé, Antioche tient une place spécifique comme première héritière de l'Église de Jérusalem et aussi comme premier siège de l'apôtre Pierre. Or, dans le patriarcat d'Antioche, à cette époque, deux langues cohabitaient. Le grec et le syriaque. Le syriaque est un dialecte araméen et c'est ce dialecte que notre Seigneur parlait. Et lorsqu'il y a eu à Mahaloula ce drame, ce village vidé de tous ses habitants, Mahaloula était un village où l'on parlait encore aujourd'hui araméen. Donc, de ces deux langues qui cohabitent, naîtront la pluralité des rites. Ainsi, dans chaque anaphore eucharistique, c'est-à-dire anaphore en grec, ça veut dire latin, c'est le mot canon, on a traduit par canon de la messe, hein, existe un noyau central commun à toutes ces liturgies, commun le calendrier liturgique, commun les fêtes des saints. Et on peut dès lors parler de liturgie antiochienne ou de famille liturgique antiochienne. Mais il y avait la vieille ville d'Édesse en Syrie orientale, semble avoir été un centre important pour le développement de l'hymnographie chrétienne. Et au IVe siècle, il y a un diacre qui a écrit énormément d'hymnes remarquables, qui sont aujourd'hui bien sûr publiés aux sources chrétiennes, et toutes les églises de langue syriaque vont les utiliser, et la langue grecque, les liturgies de langue grecque s'en inspireront. Léon XIII a fait d'ailleurs de saint Éphrem le Syrien un docteur de l'Église. La plus ancienne liturgie antiochienne, connue en langue grecque, date du IIIe siècle. Et on en trouve des traces dans la Didascalie des apôtres, qui est un texte qui a été écrit en Syrie aux alentours de 250. Mais c'est aussi à la Syrie qu'il faut rattacher la liturgie byzantine, tant les deux grands centres syriens étaient à l'origine Antioche et Jérusalem. Et de nombreux évêques antiochiens occupèrent entre le IVe et le VIe siècle le siège de Constantinople, mais pour ne citer que le grand saint Jean Chrysostome, saint Jean Chrysostome était un prêtre d'Antioche. Un petit détail, lorsque saint Jean Chrysostome, qui ne prêchait qu'en grec, prêchait à Antioche en grec, il y avait un diacre qui traduisait en syriaque. Lorsque saint Cyrille de Jérusalem prêchait en syriaque, il y avait un diacre qui traduisait en grec. Dans ces conditions, même pour Byzance, on doit parler de liturgie antiochienne, et ce n'est qu'à partir du IXe siècle que l'on parle de liturgie byzantine. Il existe donc bien une unité liturgique qui manifeste une unité ecclésiale. Et j'aimerais insister sur un point très important. Les patriarches orientaux y tiennent dans la perspective du rétablissement de la pleine communion entre les églises d'Orient catholiques, orthodoxes et pré-cacédoniennes. Un point fondamental, en général complètement ignoré. Eh bien, il convient de remarquer que toutes ces différentes liturgies ont toutes été composées avant le concile de Chalcédoine de 451. En conséquence, donc, de certaines ruptures qui ont lieu au sein de l'Église d'Orient. En conséquence, les liturgies des églises orientales aujourd'hui divisées ne manifestent aucune rupture avec le dépôt de la foi exprimé dans les canons des premiers conciles, Nicée 325, Constantinople 381, Éphèse 431 et Chalcédoine 451. Voilà pourquoi tous ces détails pour vous tracer à grands traits la physionomie de ces églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes et pré-calcédoniennes qui aujourd'hui portent la croix du Christ. Je dirais même mieux qu'elles se configurent aux souffrances et à la mort de notre divin Rédempteur. Les églises orientales catholiques unies à Rome conservent l'héritage liturgique de l'Orient. Et depuis longtemps, les papes se sont montrés, en théorie du moins, d'ardents défenseurs de ces particularismes légitimes. Et je pense notamment au pape Benoît XIV, ce grand canoniste, Léon XIII, avec sa très belle encyclique Orientalum Dignitas de 1896. Mais peut-être que l'expression la plus précise, à mes yeux en tout cas, reste sans doute l'encyclique Orientalis Ecclesia Decus de Pie XII, qu'il publia le 9 avril 1944 pour le 15e centenaire de la mort de saint Cyrille d'Alexandrie. Je vous en donne une citation. Il parle là, Pie XII parle là des églises orientales unies à Rome. Il est nécessaire que tous et chacun des peuples de rite oriental, en tout ce qui dépend de leur choix particulier, de leur propre génie et caractère, jouissent d'une légitime liberté, pourvu qu'elle n'aille pas à l'encontre de la vraie et intégrale doctrine de Jésus-Christ. Que tous soient certains et convaincus que jamais ils ne seront forcés, d'échanger leurs légitimes rites propres et leurs antiques constitutions contre les institutions et les rites latins. Les uns et les autres doivent être tenus en égale estime et honneur, parce qu'ils entourent l'Église mère comme d'une royale variété. Bien plus, cette diversité de rites et d'institutions, en gardant intact et inviolable ce qui pour chacun est ancien et précieux, ne se pose nullement à une vraie et sincère unité. Je tenais à faire cette rapide présentation pour vous montrer ce que représente comme trésor pour l'Église tout entière, ces églises aujourd'hui broyées, martyrisées, enfin que l'on veut broyer et que l'on martyrise, mais qui renaissent toujours. Donc il fallait quand même définir un peu la nature et l'histoire des églises orientales pour vous montrer de qui nous allons parler. Alors, il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Je ne vais pas faire ce soir la géopolitique du Moyen-Orient. Une soirée n'y suffirait pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va déclencher une véritable panique en Syrie, car je vous parlerai essentiellement de la Syrie ce soir, un peu de l'Irak, tout simplement parce que je suis très proche de l'église grecque melkite catholique d'Antioche. Je suis très ami avec un prêtre melkite qui a été curé de Saint-Julien-le-Pauvre à Paris et est actuellement évêque dans le sud de la Syrie. J'y connais un certain nombre de religieux et j'ai aussi l'honneur et l'avantage de connaître le patriarche, sa béatitude Grégorios III. Donc, et je fréquente évidemment régulièrement à Paris la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre, qui est la paroisse des Melkites. Par conséquent, j'ai des informations en direct et le moyen de suivre, car j'ai aussi beaucoup d'amis syriens et libanais d'ailleurs, Melkites, et par eux, évidemment, nous avons une vision qui diffère sensiblement de celle que nous donne la presse. Quand la crise se déclenche-t-elle réellement en Syrie? Elle commence lorsque l'on commence à faire parler, de l'État islamique en Irak et au Liban, c'est-à-dire au mois de mars 2011. On ne parle pas encore en réalité de Daesh. Je prendrai ce sigle parce qu'il est plus facile. On ne parle pas. Il y a ce qu'on a appelé les printemps arabes. De quoi s'agit-il? Le printemps arabe, et lorsqu'on dit les printemps arabes, on a raison, car les situations n'étaient pas la même en Libye, en Égypte, en Tunisie d'abord, en Libye, en Égypte et en Syrie. Il est indiscutable que le pouvoir de d'Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, monseigneur Antiba, évêque de Bosra, un jour, j'étais assis à côté de lui dans une conférence qu'il donnait parce qu'il est venu faire un séjour en France il n'y a pas longtemps. Et le père était un tyran, mais pas le fils. Pas le fils. Un renouveau dont vous n'avez pas idée. Sous le père, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, l'électricité n'était pas l'eau courante. Tout ça était des problèmes. Personne n'avait de voiture. Et sous le fils, les choses commençaient à s'arranger. Mais comme le dit le patriarche, on ne sort pas d'une situation d'un pouvoir autoritaire, et plus qu'autoritaire, on peut dire sans exagérer, dictatorial. On ne sort pas d'une situation comme celle-là d'un seul coup. Et les Orientaux, vous savez, on subit, on oublie, mais on subit les Ottomans de la chute de Constantinople en 1453 jusqu'au début du XXe siècle. Et vous savez que tout a commencé dans le sang avec le génocide des Arméniens. Donc ils sont habitués. À Damas, en 1860, il y a eu une répression contre les Melkites qui ont tous quasiment, enfin pas tous évidemment, mais une grande partie, a été assassinée. On a détruit leurs églises. Et comme dit le patriarche, Grégorios, bien, 150 ans après, nous avons toutes reconstruites. Donc ce sont des églises qui ont subi, mais pas comme aujourd'hui. Et tout a commencé, je dirais gentiment, c'est-à-dire qu'il y avait un véritable désir de renouveau. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, en Syrie, il y a eu un grand mouvement de renouveau qui a été, et d'ailleurs les Melkites se sont distingués de la même manière en Égypte, eh bien, les chrétiens ont toujours été à l'avant-garde pour faire évoluer cette société. Et donc, les prémices du plein temps arabe, qui demandait plus de liberté, parce qu'il y a quand même une citoyenneté à deux vitesses. Pour les mariages, c'était extrêmement difficile avec Bachar el-Assad. Grégorios dit, nous avons obtenu un statut, nous chrétiens, pour les mariages et pour la famille. Donc les choses étaient en train, petit à petit, de se mettre en place. Seulement, voilà. Les banques libanaises venaient s'installer, l'industrie se développait. Seulement, la Syrie était un État libre, elle n'avait de dette à l'égard d'aucun pays occidental. C'est-à-dire que, pour être très clair, les États-Unis, l'Europe n'avait pas de prise sur cet État, et cet État a un sous-sol très riche. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, depuis la crise de l'Irak de 1991, a été lancé par les États-Unis, par George Bush lui-même, parce qu'il fallait maîtriser quoi ? L'or noir, le pétrole. Et tout cet enjeu. Et comme dit le patriarche Grégorios, la Syrie aujourd'hui, c'est le supermarché du monde. Tout le monde vient se servir. Tout le monde parle de la Syrie, tout le monde parle des Syriens. Mais les Syriens, en tant que personnes, en chair et en os, qui ont une âme, qui ont un esprit, tout le monde s'en moque. Donc les grandes puissances sont là, au Moyen-Orient, pour se battre. Et ce sont des guerres d'influence. Les États-Unis, en vertu d'accords qui remontent à Roosevelt en 1947, avait passé un accord avec, on dit aujourd'hui, la dynastie saoudienne, une dynastie qui est née en 1947, une famille de tribales, de bédouins, qui a plus réussi que les autres. C'était une famille importante chez les bédouins, mais ça n'était pas une dynastie. Et des accords ont été passés. Les États-Unis maîtrisaient, ont pompé le pétrole. Mais qu'a demandé ce chef arabe ? Il a été convenu que les échanges ne se feraient qu'en dollars. Et voilà comment l'Arabie saoudite et les États-Unis vivent avec un pacte auquel personne ne peut toucher depuis 1947. Donc au début, il y a quelques révoltes qui commencent. Et ça tombe bien puisque ces révoltes commencent dans la ville de Dera. Dera, c'est au sud de la Syrie, c'est dans le diocèse de Monseigneur Antiba. Et au début, il y a quelques petites manifestations. Mais ces manifestations sont assez paisibles. Mais il y a des meneurs. qui finissent par s'introduire. Alors au début, on paie les gens. Le patriarche s'inquiète de cet argent. Monseigneur Antibam l'a dit, nous l'a dit, il n'était pas le seul à assister à sa conférence, n'est-ce pas ? Même si j'étais assis à côté de lui, je n'étais pas seul. Et il a dit, on a acheté les gens, pas grand-chose au début, avec du Coca-Cola. Vous savez, les Américains, tout ça, c'est des produits américains. Le Coca-Cola n'est pas syrien. Il n'est pas fabriqué non plus dans les côtes du Rhône. Hein, bon. Et petit à petit, on a payé les gens. Au début, on les a fait sortir pour faire des photos. Quand la séance de photos était finie, les personnes rentraient chez elles. Et puis, ça se calmait, ça repartait. Et puis un jour, les meneurs, dont je vais vous parler dans un instant, ont commencé à dire « Non, non, mais il faut faire céder le pouvoir. » Le pouvoir. Et là, on a commencé, les meneurs, armés évidemment, ont commencé à tirer sur la police syrienne. Et comme dit Monseigneur Antibas, comme les policiers ne sont pas des anges, ils ne sont pas revêtus de la nature angélique, on leur a tiré dessus, ils ont tiré. Alors ça s'est amplifié, puis ça s'est calmé. Et puis le mouvement est monté plus au nord, il est arrivé dans la ville de Homs. Vous avez entendu parler, parce que Daesh s'en est occupé de Homs. Et à Homs, il y avait les frères musulmans. Les frères musulmans. Et ceux qu'on appelle les gentils rebelles, aujourd'hui, là, toute la journée depuis hier, on entend parler des rebelles, que M. Vladimir Poutine et le président Bachar el-Assad sont en train de s'en prendre aux rebelles. Les gentils rebelles. L'opposition douce et gentille. Mais ces rebelles sont les gens d'Al-Nusra qui sont arrivés par la frontière jordanienne. Et Al-Nusra, émanation d'Al-Qaïda en Afghanistan, indépendante de Daesh, mais poursuivant le même but. Et donc les rebelles, les gentils rebelles, les rebelles, ce qu'on appelle les modérés, l'opposition modérée n'a rien de modéré. Monseigneur Antibas, qui a plusieurs familles, qui a eu plusieurs morts dans son diocèse de Bosra et du Oran, a dit lorsqu'on ces gens-là ne parlent pas arabe, ou l'arabe qu'ils parlent n'est pas l'arabe syrien, et surtout on entend toutes les langues de la planète. Et beaucoup parlent allemand, anglais, français, espagnol. Ce sont ces jeunes recrutés, ces jeunes des banlieues désœuvrées, vivant dans une société qui ne peut pas les satisfaire, mais je reviendrai sur ce problème ultérieurement. Tout ça, c'est une organisation. Il n'y a pas un Syrien. Il y avait une opposition modérée, il y a très longtemps qu'elle a compris, parce que si au début il y avait un certain enthousiasme qui pouvait s'expliquer, l'enthousiasme est vite retombé, parce que ce printemps arabe a été conçu en Syrie comme un véritable printemps. Le printemps, c'est là où les fleurs éclosent. Et là, que se passe-t-il ? On trouve la mort, on trouve la destruction de maisons. Le patriarche a un de ses neveux qui a été pendu devant sa maison. Je connais un autre prêtre à Paris, dont ma sœur syrien, d'Alep, les amis syriens sont surtout alépins, qui est morte dans un bombardement il y a quelques mois. Je connais un jeune ménage dont le frère était déjà en France et lequel ma fille, ma dernière fille, s'est occupée des enfants quand ils sont arrivés en région parisienne, abrités dans une paroisse, dans un petit logement qu'avait donné une paroisse. Et lorsque ma fille se coupait de ses petits-enfants, qui étaient tout petits, hein, des enfants de 3 ou 4 ans, quand ils entendaient une sirène de police, ils disaient « C'est une bombe ». et nous étions à Paris. Donc, le printemps arabe s'est mal terminé d'ailleurs partout. Comme vous le savez, peut-être que la Tunisie semble plus calme, en tout cas en Libye, c'est la catastrophe. En Égypte, ça n'est quand même pas non plus très brillant. On a éliminé M. Moubarak, après il y a eu M. Morsi, et maintenant il y a le général Sisi, qui apparemment est plus ouvert et veut protéger les chrétiens. Il n'empêche que dimanche, sur les sites égyptiens, ou sur les sites en langue arabe francophone, on pouvait voir la réaction des Coptes qui étaient désespérés et en révolte. Ils ont fait confiance à ce pouvoir. Mais donc le résultat des printemps arabes a été la mort, le crime, la destruction et l'exode. L'exode. Et ça, voyez-vous, ce qui fait le plus mal aux patriarches et aux évêques, qui ne peuvent pas empêcher les gens de partir quand vous avez tout perdu, quand une partie de votre famille a été décimée. Le patriarche raconte dans un petit ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient de paraître, que vous conseille vraiment de lire. Il a rencontré un jour une personne qui avait perdu dans la même journée sa femme et ses enfants. Vous n'avez plus rien, plus de maison, tout est explosé. Alors qu'ont fait les gens? Les gens ont essayé de partir. Ils ont vendu ce qui leur restait, ce qui a fait la fortune des passeurs. Et comme le dit le patriarche, ça fait la fortune des passeurs. Et l'Europe inconsciente. L'Europe inconsciente, le patriarche, je vous lirai tout à l'heure quelques passages de ce qu'il dit. L'Europe inconsciente a ouvert ses portes avec un double drame. C'est que le musulman ou le chrétien, parce que c'est une religion, c'est un pays, qu'on le veuille ou non, où ces deux religions cohabitent, comme dit le patriarche, qu'on nous entende. Cela fait plus de 14 siècles que nous vivons ensemble. Et il y a eu des périodes, des tensions difficiles, il y a eu des conflits, mais il n'y a jamais eu cette guerre civile systématique qui s'est instaurée sous l'impulsion de Daesh, puisque Daesh, c'est quoi? C'est monter les communautés les unes contre les autres. Si vous me permettez un exemple familial, le grand-père de mon épouse, qui était officier, français, s'est trouvé en Syrie au début de ce qu'on a appelé le mandat français, juste après la guerre de 14-18, en 1920. Et je me souviens, quand à plus de 80 ans, lui et son épouse racontaient avec émotion leur vie en Syrie dans les années 1920. Les trois communautés, musulmanes, chrétiennes et juives, vivaient en parfaite intelligence. Pourquoi le Moyen-Orient est francophone? Mais parce que les congrégations religieuses, les jésuites, les dominicains, les maristes, ensuite les pères blancs, ont ouvert des écoles, ils ont enseigné le français aux chrétiens et aux musulmans. Au XVIIe siècle, les patriarches ont fait obligation à tous les curés de paroisse, qui la plupart étaient des moines d'ailleurs, ont fait obligation, s'ils ouvraient une école, d'ouvrir des écoles. Donc il y a ce mot qui paraît dérisoire aujourd'hui, vous me dites, pourquoi pouvez-vous dire ça? Mais je vous le dis parce que ça a été vrai et que c'est encore vrai aujourd'hui. Il y avait une grande convivialité entre les musulmans et les chrétiens. Alors après, il y a eu des problèmes politiques. lorsque les chefs politiques s'en mêlent, vous savez, à toutes les époques, les résultats sont à peu près... Mais il n'y a jamais eu ces haines. Les familles se recevaient. Le patriarche dit pour Noël, tout le monde me souhaite un bon Noël, tout le monde me souhaite une bonne Pâque. Eh bien, moi, je souhaite un bon Ramadan. Parce que ce musulman-là, qui est né musulman, nous aurions pu, nous, naître musulmans. Lui, n'y est pour rien. Lui, ce n'est pas un djihadiste. Le djihadiste le déteste. Et le patriarche, qui ne refuse pas de rencontrer dans des grandes réunions des dignitaires musulmans, raconte dans ce petit bouquin merveilleux que lorsqu'il va à une réunion où il y a un musulman, les musulmans commencent par à verser du Coran. Eh bien, lui, dit-il, moi, dans toute réunion où je vais, interreligieuse, qui n'est pas de l'écuménisme, hein, interreligieuse, mais ils vivent ensemble, il faut bien qu'ils se rencontrent. Et en plus, ils vivent ensemble depuis 14 siècles. Il m'a dit, je ne commence jamais une intervention sans me signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amin. Et pourquoi met-il un seul Dieu? Parce que les musulmans nous accusent les chrétiens d'être des polythéistes et d'avoir trois dieux. Mais il me dit, c'est extraordinaire, quand je rencontre au moment de Noël les ambassadeurs ou les consuls français qui viennent me présenter leurs vœux, ils me souhaitent une bonne fête de fin d'année. Et quand je rencontre un dignitaire musulman, il me souhaite un joyeux Noël. Donc, le problème de fond, c'est qu'il faut restituer, à ces pays leur liberté et leur autonomie. Ils ont su vivre ensemble pendant 14 siècles. Et en plus, le patriarche aime à le répéter, nous sommes l'Église de l'islam pour l'islam. C'est-à-dire que notre témoignage, le témoignage que nous avons apporté, il est apporté en milieu islamique. C'est auprès des musulmans que nous devons témoigner du Christ, parce que c'est d'autant plus notre mission que nous sommes sur les terres où est né le christianisme. Et il voit partir avec déchirement ces familles. Ils font tout pour que ces familles restent, ils font tout pour les aider, mais les moyens sont trop importants, ils ne peuvent pas forcément y arriver. Mais ils savent en plus qu'arriver en Occident, arriver en Australie, arriver aux États-Unis, c'est aussi un risque de se dissoudre dans une société qui est hostile. Et dans un récent message, qui est d'ailleurs sa lettre de Noël 2013, le patriarche adressé à tout son clergé, à tous ses fidèles, écrit à ceux qui se sentent obligés de partir. Qui sonnera la cloche de l'Église? Qui sera baptisé dans le baptistère du village? Qui vénérera les saintes icônes? Qui chantera les hymnes de Noël, de la résurrection et des fêtes des saints? Qui à Pâques chantera « Le Christ est ressuscité » et répondra « Il est vraiment ressuscité » Qui célébrera les fêtes de Saint-Georges, Saint-Élie, Saint-Ex, Sainte-Barbe? Qui ornera l'arbre de Noël et allumera les lampions de la crèche? Sans toi, chrétien oriental, aucun frère musulman n'entendra plus la cloche de l'Église, ni la voix d'un chant ou d'une chorale de village ou d'un monastère, de religieux ou de monial. Plus de procession avec la croix et les icônes de la Vierge et des saints de notre pays, de notre village, de nos familles, qu'avec ses cantiques à la Vierge si populaire. Car tout cela est la manifestation du Dieu ami des hommes. Eh bien, tout cela disparaîtra avec toi, chrétien oriental, car c'est à travers toi que le Christ ami des hommes se manifestera, mais sans toi, il ne se manifestera pas et l'Orient oubliera son évangile, ses enseignements et ses miracles. Pour cela, nous exhortons nos fidèles et les appelons à la patience dans les tribulations, surtout dans ce tsunami de crises étouffantes, destructrices, sanglantes et tragiques de notre monde arabe, surtout en Syrie, comme aussi en Égypte, en Irak, en Palestine et au Liban, à des degrés différents. Nous les appelons à ne pas émigrer, à être fermes sur leurs terres, dans leurs villages et leurs quartiers, malgré les difficultés que nous connaissons tous. Nous partageons la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Voilà. Pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne pas dans nos cœurs, en Syrie, en Orient. Voilà cet appel pressant, ce cri. Et il y a 2 ans, à Notre-Dame de Paris, pour la messe annuelle de l'œuvre d'Orient, où le patriarche était venu à l'occasion des 125 ans de l'établissement de l'église Saint-Julien le Pauvre, à Notre-Dame de Paris, devant le cardinal, chevêque de Paris, devant des représentants du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Oui, dit le patriarche, nous remercions la France pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout l'Orient, mais surtout, aidez-nous à rester, à remplir notre mission et à jouer notre rôle au cœur du Moyen-Orient. Sur une population de 22 millions d'habitants, aujourd'hui, à l'intérieur et à l'extérieur sont déplacés 9 millions de Syriens, parmi lesquels 400 à 450 000 chrétiens. 91 églises détruites, disait-il en 2014, on est aujourd'hui à 150. Des villages vidés, des milliers de maisons détruites, 1 millier de victimes. Et je me rappelle avec quelle émotion le patriarche nous a parlé de trois jeunes hommes qu'il avait connus, et pas plus des adolescents, mais pas des adultes, qui, contraints à abjurer sous la pression des djihadistes, ont dit non et ont crié en mourant « Vive Jésus-Christ ». Le pape a dit « Ce sont 3 martyrs ». Deux évêques enlevés, je vous disais tout à l'heure à Alep, 2 évêques enlevés. Et nous avons encore, dit le patriarche, encore de nos frères, de nos amis qui sont enlevés sans trace. Alors on nous dit au milieu de cela, vous devez survivre. Je dis non, vivre, il faut vivre. Une persécution, vivre la crise et trouver son rôle dans la crise. La seule question, insiste Grégorios, est de savoir comment aujourd'hui on peut vivre comme chrétien dans cette situation difficile. Eh bien, pour cela, il faut de la solidarité entre toutes les églises et que l'Église parle d'une seule voix, une seule voix. Ces paroles, je les ai recopiées au moment où il est prononcé à Notre-Dame de Paris. « Grâce à Dieu, dit-il, l'Église en Syrie, en Terre Sainte, au Liban, en Palestine, en Jordanie, en Irak, les patriarches, tous les patriarches catholiques et orthodoxes parlent d'une seule voix au Moyen-Orient et dans toute la Syrie. Mais nous avons besoin aussi, dit-il, de la voix de l'Église universelle. Et le pape François ne cesse de répéter sa sympathie pour la Syrie et pour le peuple syrien. Nous avons été très touchés, dit le patriarche, mais nous aimerions une intervention plus forte, parce que pour le moment, cela reste pour l'instant de la sphère de la prière et des souhaits. Les Syriens rêvent d'une action diplomatique réelle de la part de la secrétaire d'État du Saint-Siège. Il avait proposé à Rome, avec tous les patriarches, de rédiger un texte commun sur la réalité et en même temps sur l'après, parce qu'ils ne veulent pas partir. Et vous savez, c'est admirable, les prêtres, les religieux, les religieuses, les patriarches, les évêques, personne n'est parti. Les fidèles peuvent partir, ils le comprennent, ils en souffrent, mais ils peuvent partir et nous ne pouvons pas les empêcher de partir. Ils s'interdisent d'interdire, d'empêcher leurs fidèles de partir parce que la vie est trop difficile, parce que c'est trop dur. Mais parmi eux, aucun n'a manqué à l'appel. Et ceux qui manquent à l'appel, c'est parce qu'ils ont été martyrisés. Et Grégorios, dans ce petit ouvrage, parle à l'adresse de notre pays, parce que c'est Charlotte Dornelas qui travaille avec cette très belle œuvre SOS Chrétien d'Orient, composée essentiellement par des jeunes, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure, là, fait ce petit ouvrage qui est publié chez Arthège, qui fait 120 pages, 127 pages, qui vaut 12,90 € et qui s'appelle « Ne nous laissez pas disparaître, un cri au service de la paix ». Franchement, offrez, diffusez cela autour de vous pour Noël. Eh bien, dans ce petit ouvrage, Grégorios, à l'adresse de notre pays, la France, puisque Charlotte Dornelas l'interroge sur la France. Il dit « Pour parler spécifiquement de la France et de ses évêques, nous nous sommes parfois sentis délaissés globalement. Patriarche reconnaît que la France, que de France des soutiens précieux. Et vous savez, je vais vous dire, de façon un peu violente sans doute, mais hormis quelques exceptions, ni l'État français, ni la conférence épiscopale en tant que corps constitué qui est toujours prête à prendre la parole sur des sujets qui ne la concernent pas forcément. Il n'y a jamais eu un message clair vis-à-vis de l'Orient parce qu'ils sont embêtés vis-à-vis de Bachar el-Assad. On a même accusé, c'est un évêque français qui a porté accusation sur les ondes de Radio Notre-Dame le vendredi 11 septembre 2013 qui a accusé le patriarche d'être un des financiers de Bachar el-Assad. Autre jour, un prêtre, Melkite, vénérable, 93 ans, c'est lui qui me disait, nous déjeunions chez des amis syriens, c'était le dimanche des rameaux. Et il me dit, T'as vu passer un communiqué de la conférence épiscopale sur notre situation en Orient ? Je lui ai dit non. Eh bien, il était révolté. Ce prêtre, qui est le chantre de Saint-Julien le Pauvre, qui est dépositaire de toute la tradition de la liturgie byzantine d'Alep, qui a une voix incroyable, à 93 ans, le père Joseph Farmé, qui a perdu sa sœur il y a quelques mois dans les bombardements à Alep, et dont il se sent un peu délaissé. En revanche, les chrétiens de France, les catholiques de France, sont admirables. Quand je vous ai parlé de SOS Chrétien d'Orient, J'y connais beaucoup de jeunes qui font des séjours là-bas, qui paient leurs billets d'avion, qui passent. Ils sont extrêmement nombreux. Je connais plusieurs qui sont allés en Syrie, qui sont allés au Liban, qui sont allés en Jordanie, qui vont en Irak, qui mobilisent des jeunes, des infirmières, des médecins. C'est absolument admirable. Vous avez bien sûr la vénérable œuvre, l'œuvre d'Orient. Vous avez l'aide à l'Église en détresse. Vous avez la Caritas. Mais je donne un très bon point à Monseigneur Ré. Monseigneur Ré, évêque de Toulon, qui est allé plusieurs fois, cet an dernier, en Syrie, et qui a jumelé le diocèse de Toulon avec le diocèse, l'éparchie de Homs. Monseigneur Ayé, aussi, qui a reçu Monseigneur Antiba à la cathédrale et un comité à Biarritz qui soutient son diocèse. Dans cet ancien diocèse où il y avait, on appelle ça une métropole, son diocèse fait à peu près 250 km de long. Vous allez du plateau du Golan jusqu'à la frontière irakienne. Vous savez que dans l'Église primitive, il y avait un nombre invraisemblable d'évêchés. Il y avait plus de 80 évêchés. Aujourd'hui, il est tout seul et il a 20 prêtres. Et pour ces 20 prêtres, il ne peut leur donner que 200 euros par mois. Et il y a un prêtre très malade atteint d'un cancer, c'est la paroisse Notre-Dame du Rocher de Biarritz qui, par l'intermédiaire de l'Ordre de Malte, que j'allais oublier, fait passer régulièrement les traitements qui seraient autrement impossible d'acheter là-bas. Donc, Monseigneur Ré, Monseigneur Ayé, il y a certainement des initiatives que je ne connais pas, mais en tant que corps constitué, on sent bien chez le patriarche, il n'insiste pas, mais nous avons le sentiment d'avoir été délaissés. Parce que chez nous, tout va bien. Nous sommes embêtés un peu parce que la gauche nous embête et elle est embêtante. Mais franchement, nous avons passé tous un Noël confortable. Pensez à ces milliers d'enfants, d'orphelins, de frères chrétiens. Et il y a des familles musulmanes qui sont exactement dans la même situation. Et ce Monseigneur d'Ajaccio, évêque d'Angoulême, maintenant ça y est, il a présenté sa démission. Hein. Il a quand même osé dire, d'ailleurs Louis Dufresne qui menait l'entretien, c'est le journal qui a lieu le matin, là, le journal assez intéressant sur Notre-Dame, essayez de lui demander de se calmer, hein, parce qu'il s'en est pris, donc bien sûr, à Bachar el-Assad et à Vladimir Poutine et accusé le patriarche d'être un des soutiens financiers du parti. Vous imaginez comment le petit patriarcat d'Antioche, dans l'état où il est avec toutes les œuvres, parce qu'ils construisent des hôpitaux, des écoles, ils ont déjà suffisamment à faire et ils n'ont pas assez. Je ne vois pas comment ils pourraient financer. Hein. Et surtout, mais je crois que le plus abject, c'est la dernière phrase de Monseigneur d'Agence. Il faut faire attention à ne pas diaboliser tous les djihadistes. Le patriarche a même écrit une lettre à laquelle il n'a jamais daigné répondre. Et moi, j'ai écrit très longuement à Monseigneur d'Agence. Je n'ai jamais eu de réponse. Il était d'accord avec M. Hollande et M. Obama, qui a reculé, pour aller bombarder Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il ne faut pas l'idéaliser, mais le patriarche nous dit, si on enlève Bachar el-Assad, si on avait fait, on reproche aujourd'hui à tout le monde, enfin l'Occident, l'Occident au sens large, reproche aujourd'hui à ceux qui soutiennent ou qui se posent des questions, mais qui soutiennent Bachar el-Assad. Mais si on avait éliminé Bachar el-Assad, la Syrie aujourd'hui, l'Irak, serait aux mains de Daesh. Parce qu'il y a quand même quelque chose de mystérieux. On reproche à Vladimir Poutine de soutenir Bachar el-Assad, mais qui se souvient qu'au moment de la guerre d'Irak, au printemps de 1991, en 4 mois, l'armée américaine a jeté sur les populations irakiennes 85 000 tonnes de bombes. Et puis, qui arme Daesh? Qui arme Daesh? Le Qatar et l'Arabie saoudite? À qui la France vend-elle des armes? Au Qatar et à l'Arabie saoudite? Mais les deux avions militaires, les deux bateaux de la marine de guerre qui avaient été payés par la Russie, que pour des raisons morales, on a refusé de vendre à M. Poutine. Alors évidemment, il y a le grand juge de tout ça, c'est l'Observateur syrien des droits de l'homme. Vous entendez ça tous les jours. OSDH. C'est un type qui est dans sa chambre à Londres, avec des correspondants. C'est un frère, ce sont les frères musulmans. Ce sont eux les modérés. Les frères musulmans, ce sont eux qui sont génétiquement à l'origine du djihad. Les frères musulmans ont été fondés en 1927. Et vous savez qui a fondé les frères musulmans? Eh bien, cet islamiste que l'on présente partout comme modéré, Tarek Ramadan. Le grand-père de Tarek Ramadan est le fondateur des frères musulmans en Égypte en 1927. Mais lui, c'est un modéré. L'imam de Bordeaux est un frère musulman. Mais tous les musulmans en Syrie, au Moyen-Orient, ne sont pas frères musulmans, ne sont pas affiliés à Al-Nusra ou à Daesh. Ils en souffrent et ils ont aussi énormément de victimes. Alors, il y a un dernier point avant de conclure que je voudrais souligner. C'est un point jamais soulevé dans la presse. C'est un sujet interdit. Mais je vous ai dit tout à l'heure, en parlant des grands-parents de mon épouse qui avaient vécu au Liban, enfin en Syrie, parce qu'à l'époque, Beyrouth, c'est nous qui avons créé la France, en plus, qui a créé le Liban et la Syrie. Et en plus, la dynastie des Alaouites, au passage aussi, il faut quand même le savoir, c'est nous qui l'avons installée. C'est assez intéressant. C'est la France qui a créé la dynastie des Bachar el-Assad. Si on peut parler de dynastie, mais enfin, ce lignage, c'est nous. La famille Alaouite, qui est une minorité chiite, c'est parce que justement, pour faire l'équilibre entre les sunnites et les chiites. Mais, comme je vous l'ai dit, les populations chrétiennes, musulmanes et juives vivaient dans une relative harmonie. Mais voilà, en 1948, on crée l'État d'Israël et on ne règle pas, et on ne règle pas la question des Palestiniens. Il y a eu une première tentative en 1920, décidément 1927, c'est une drôle d'année. C'est l'année, c'est l'arrivée des premiers sionistes. Et le premier massacre a lieu en 1927 à Hébron. Hébron, c'est là où il tombe les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, lorsque les sionistes sont arrivés, ils ont commencé par persécuter les juifs autochtones qui se sont réfugiés chez les Palestiniens musulmans. Mais en 1948, on franchit un pas supplémentaire et on crée un État et on ne règle pas la question palestinienne. Le patriarche Grégorios III a été vicaire patriarcal et évêque grec catholique de Jérusalem pendant 26 ans. Il a toujours défendu les Palestiniens. Et quelque temps, j'étais à côté de lui, à table, et je lui dis « Béatitude pour vous, la raison fondamentale de tout ce qui se passe, ce qui a engendré cette affaire. » Et là, comme je me doutais de la réponse, parce qu'il l'a tellement souvent écrit, mais... Et en me regardant droit dans les yeux, il me dit « j'accuse la France, j'accuse l'Europe de ne pas avoir voulu régler la question israélo-palestinienne ». Il a prononcé ces mêmes mots à Notre-Dame de Paris devant un représentant du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. On ne veut pas. Et le terrorisme s'est enfanté dans cette non-reconnaissance des droits du peuple palestinien. Et vous savez, ou vous ne savez pas, auquel cas c'est l'occasion de l'apprendre, que le grand rêve depuis M. Kissinger, c'était en réalité de faire un grand État sunnite, parce que c'est les sunnites qui avaient la plupart des terres pétrolifères. On faisait donc un grand État sunnite. Les chiites, c'est l'Iran, Mais on fait un grand État sunnite autour de l'État d'Israël et on protège Israël. D'ailleurs, les sionistes, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas être forcément juif pour être sioniste. La preuve, c'est que les Américains... plutôt protestants, sont sionistes. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont des États sionistes. Et donc la grande idée, c'était de faire un îlot d'Israël qu'on allait protéger, du fait qu'on aurait à eux accordé immédiatement la bombe atomique. Mais M. Kissinger a quand même proposé un jour au président de la République libanaise, il a dit « Votre pays n'est pas un pays, de toute façon vous ne devez pas rester ici, nos bateaux sont prêts, on va vous installer ?» Évidemment, la réponse a été non. Vous savez que lorsque le patriarche maronite est élu, le nouveau patriarche est élu par son Saint-Synode, en fonction des vieux accords du Moyen-Orient avec la France, qui remontent tout de même à Saint-Louis. Les rapports ont été mouvementés au cours de l'histoire, mais enfin, aujourd'hui, et tous les orientaux, vous le diront, nous avons le sentiment d'avoir été lâchés par la France, pas par le peuple français, entendez-moi bien, pas par le peuple français, par des intellectuels. Et tout ça, ça a commencé sous Jacques Chirac. Le premier qui a rompu, parce qu'il était très ami, vous savez celui qu'on a assassiné, là, le ministre libanais, M. Hariri n'est pas plus libanais que vous et moi. Il avait la nationalité libanaise, c'est un homme d'affaires redoutable, mais c'est un Saoudien. Et lorsque l'actuel patriarche maronite Sa béatitude Béchararaï, selon l'usage, vient se présenter pour une visite d'État au président de la République française. C'était à l'époque M. Sarkozy. Et M. Sarkozy, dès les premiers instants de l'entretien, dit « Vous ne pouvez pas rester là-bas. Vous n'avez plus de place en Orient. C'est pas votre place, c'est fini. On ne peut pas vous protéger. C'est impossible. On va vous installer en France, le patriarcat maronite. On va vous créer des communautés. Et puis, il y a l'Australie, et puis, il y a les États-Unis, et puis... » Le patriarche, en sortant sur le perron de l'Élysée, ça fait un pataquès énorme à ce moment-là, a protesté. Et à ce moment-là, le patriarche Béchararaï, le patriarche syriaque catholique de Beyrouth et Grégorios III ont pris une position commune et ont donné une réponse commune. Ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que le patriarche Grégorios, comme tous les autres d'ailleurs, je vous parle de lui parce que je le connais, vous sentez bien qu'en plus je l'aime, hein, eh bien, disent arrêtez de faire un appel d'air. Et vous voyez, Charlotte Dornelas lui pose quelques questions assez pertinentes sur la crise migratoire. Il dit « Cette politique européenne était mauvaise pour tout le monde. Les pays européens ont quasiment donné l'impression d'inviter les gens à venir chez eux. Il fallait être plus circonspect. Évidemment qu'en laissant les portes grandes ouvertes, les gouvernants allaient créer chez leur peuple un rejet massif. C'était absolument évident. Il n'y a eu aucune prudence. Et donc, il parle de nous, hein, des États occidentaux, hein, une prise de risque inutile. Et cette politique a créé ses propres problèmes. » Et il poursuit, « Comment voulez-vous que les peuples européens comprennent et acceptent toutes ces revendications, comme le halal, par exemple ? Alors que ce n'est absolument pas dans leur culture. La question était déjà problématique et personne n'avait su répondre. Alors des centaines de milliers de migrants, en plus, n'arrangeront rien. Mais même sans parler de chrétiens et de musulmans, humainement parlant, sur tsunami migratoire est une catastrophe. Le musulman ne peut comprendre votre monde laïque. Les chrétiens sont choqués par cette présence musulmane très revendicatrice et les athées mettent tout sur le même temps. Le danger est vraiment immense. Tout le monde risque de se dissoudre dans un grand vide parce que nous n'avons pas affaire à une Europe forte qui sait qui elle est. On impose ces populations à une Europe non préparée. Comment est-il possible que l'Union européenne refuse de reconnaître ses racines chrétiennes ? C'est impossible de le nier, c'est tout simplement honteux, mais révélateur d'une perte d'identité dramatique. C'est pour cette raison que je vous disais précédemment, nous vivons dans de meilleures conditions que vous pour être chrétien, malgré une menace bien réelle que je n'occulte pas. » Je trouve que ceci nous interroge quand même. Et voyez le drame. Dans une autre lettre du patriarche, je vous lis un tout petit passage, mais qui est extrêmement intéressant, c'est toujours le message de Noël 2013 d'ailleurs. Voilà. Donc il parle à tous ceux qui partent. Elle est adressée à tous les fidèles, à tout le clergé, à tous les fidèles, mais surtout orientée à ceux qui partent. Et il leur fait comprendre ce qu'ils vont rencontrer en Occident. Voilà, je vous lis ce passage, puis après je conclurai et vous me poserez des questions si c'est nécessaire. Aujourd'hui, écrit le patriarche, il y a une laïcité qui se répand et qui veut que la foi soit à l'intérieur de la maison de chacun et des murs de l'Église, sans présence ou influence dans la société. Cette laïcité doit être résolument rejetée. Elle est contraire à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire. » Le monde, et notre monde arabe, à majorité musulmane, il a besoin de l'apparition du Christ à travers nous. Ce monde arabe musulman a besoin de nous. Ne privons pas notre monde de notre existence, de notre témoignage, de notre présence, en ne nous comportant pas en tant que chrétiens qui montrent le Christ et donnent une preuve de la beauté des enseignements de Jésus dans l'Évangile. J'ose dire que sans nous, il n'y a plus d'arabité. Alors, je vais conclure. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je n'ai pas contrôlé. Mais je vais conclure. Je vais conclure.
1h20.
Ah, mais ça va. Je fais 1h30. Hein. Bon, donc c'est bon. Il n'y aura même pas 1h30. Donc, je vais vous donner une conclusion qui n'est... En fait, c'est un très beau texte qui n'est pas de moi, qui est un de mes amis prêtres oriental, qui a passé 8 ans à Saint-Julien-le-Pauvre, qui maintenant est rentré au Liban, et il est le recteur du séminaire des moines basiliens chouérites à Sarlé, dans la Béka. Et il a organisé un certain nombre de conférences. Je l'ai plusieurs fois accompagné et je vous laisse votre méditation ce texte. Ce soir, j'ai voulu m'effacer devant eux parce que je n'ai voulu être qu'un maladroit, sans doute, modeste, mais en tout cas généreux témoin de leur souffrance, mais surtout de leur espérance. Alors, voici ce texte du père Charbel Houba. Depuis quelques années, le monde entier parle de la situation des chrétiens orientaux. Lors d'un récent passage dans une librairie à Paris, j'ai remarqué que le rayon sur les chrétiens d'Orient occupait une place de choix et qu'il était rempli d'anciennes et de nouvelles publications. Sans doute les tristes nouvelles qui arrivent d'Irak, d'Égypte, de la Palestine, du Liban et actuellement de la Syrie suscite un intérêt particulier en ce moment, sauf si ce n'est que la plupart des titres de ces livres se composent du verbe « disparaître » ou de l'une de ces déclinaisons funestes. Selon la logique des hommes, ce pessimisme blessant pourrait se justifier. Mais Dieu a une autre logique. La foi chrétienne nous situe dans le temps de Dieu et nous invite à l'accueillir dans l'enfant de la crèche et dans le Christ de la croix et à y percevoir sa puissance d'amour et de gloire. C'est pourquoi celui qui regarde les chrétiens d'Orient avec les yeux de la foi voit en eux la révélation la plus authentique du corps mystique du Christ et de sa présence dans le monde. Comme lui, qui n'était accueilli lors de sa venue au monde que dans une crèche, eux aussi sont en séjour sur une terre qu'ils partagent avec d'autres sans jamais se l'approprier. Comme lui, manifestant dans son enfance la fragilité de son existence, eux aussi assument le dénouement de toute logique de puissance. Comme lui, qui face au mal en perspective s'ouvre dès sa naissance au mystère salvifique du don ultime de soi sur la croix, eux aussi, face à la haine aveugle et à la terreur absurde, ils refusent de s'enfermer dans une logique de rejet de l'autre ou de repli sur soi. Ils s'abandonnent plutôt à la providence en restant inébranlables dans leur fidélité au Père et dans leur mission d'être la lumière du monde, le sel de la terre, cette terre qui recueille le sang de leurs martyrs et fait germer les semences de leurs saints. Aussi, leur disparition n'en est pas une. Elle serait plutôt comme celle du Christ, une croix glorieuse ou un tombeau vide, source de vie. Les chrétiens d'Orient sont donc dans la nuit de ce monde comme l'étoile de Noël qui indique le lieu de la véritable présence de Dieu et guide vers lui. Comme l'étoile, ils ne disparaîtront que quand le soleil de justice, le Christ, se lèvera et que le monde tout entier sera illuminé par le jour du Seigneur. Ce qui est considéré comme disparition n'est donc qu'une forme de transfiguration pour l'Église et pour le monde. C'est pourquoi je fus bouleversé et attristé devant ce rayon de livre, non pour la situation des chrétiens d'Orient, mais pour la mécompréhension de leur message et de leur mission, pour l'étoilement de l'horizon d'espérance chez ses auteurs et lecteurs, et la disparition pour eux de la lumière de Pâques et du feu de la Pentecôte. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de refuser de tuer deux fois ces martyrs. Après leur mort physique, le danger est de dénigrer le sens de leur vie et de leur martyre. Je ne crains pas pour les chrétiens d'Orient celui qui tue les corps, mais plutôt celui qui leur fait perdre leur âme et leur force intérieure. Et ce dernier ennemi, peut-être en chacun de nous, à chaque fois que nous oublions que dans tout ce qu'ils vivent, ces chrétiens sont pour le monde ainsi que pour l'Église universelle, une transfiguration du Christ. Mes frères, je suis un homme d'Église et un soldat de Dieu, et si je suis venu parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous sommes conscients de votre union de prière avec tous les chrétiens qui vivent une situation difficile. Et l'un des souhaits, et ce sera mon dernier souhait, que je partage avec lui. Saint Paul, le grand Saint Paul, persécuteur de chrétiens, s'est converti sur le chemin de Damas, aux portes de Damas, à Daraïa, là où est né d'ailleurs le patriarche. Et la conversion de Saint Paul est certainement le fruit du martyr de Saint-Étienne, parce qu'il a participé au martyr de Saint-Étienne. Bien, comme le font régulièrement les amis prêtres, évêques, patriarches d'Orient, prions les martyrs d'aujourd'hui pour l'Église universelle, pour chacun de nous, et pour que se lève du sein de l'islam radical de nouveau Saint Paul. Je vous remercie.